Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Le progrès, c'est compliqué. Il ne suffit pas de lancer une innovation pour qu'elle soit immédiatement prise en compte par tout le monde. La SNCF ignorait ainsi tout de l'existence de l'application France Identité. Vu le barouf qu'a fait cette histoire, c'est possible que la SNCF soit bien au courant maintenant. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Anthony pour le deuxième et dernier segment de notre chronique consacrée aux Apple Store. Et oui, on fête les 22 ans du réseau de boutiques d'Apple, ça valait bien de revenir sur cette histoire importante pour le constructeur. La première partie a été diffusée dans le Sortie de Veille d'hier. Nous sommes le mardi 23 mai, voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Il y a comme une petite incompréhension entre la SNCF et France Identité. Sur Twitter, la SNCF a assuré mordicus que la carte d'identité enregistrée dans l'application France Identité ne pouvait pas servir de document officiel pour prouver qui on est auprès d'un contrôleur. Le règlement de l'entreprise est très clair, en dehors des documents physiques, point de salut. Mais France Identité n'est pas une application comme une autre. Elle fait effectivement partie des différents moyens permettant de justifier de son identité. La SNCF, au plutôt un des community managers qui s'occupe du compte Twitter de la société a supprimé ces messages, signe qu'il y a quelque chose qui coince. C'est toutefois assez difficile d'en vouloir à la SNCF dans ce cas précis. Après tout, l'application France Identité est encore en bêta et il faut posséder une nouvelle carte d'identité avec une puce NFC pour pouvoir s'en servir. Cette histoire vient rappeler que les papiers d'identité numérique ne sont pas encore entrés dans les mœurs et que ça risque de prendre longtemps avant de laisser sa carte d'identité à la maison. Et bim, Meta s'est pris sur la tronche une nouvelle grosse amende à 1,2 milliard d'euros de la part de l'Union européenne. La maison mère de Facebook a une fois de plus été reconnue coupable d'avoir fait n'importe quoi avec nos données personnelles. Ce n'est pas une première, mais l'amende est un record en la matière. Dans le détail, Meta a utilisé un mécanisme juridique qui lui a permis de transférer les données des utilisateurs européens vers des serveurs américains en marge du Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'était une passerelle entre l'Europe et les États-Unis qui encadrait le transfert des données personnelles. Si on parle au passé, c'est parce que ce mécanisme a explosé en 2020. En attendant le successeur de cet accord transatlantique, les entreprises peuvent se servir d'accords types, sauf que ceux utilisés par Meta posaient des risques pour les droits et les libertés fondamentales des utilisateurs européens. Alors cette histoire est loin d'être terminée vu que Meta peut toujours faire appel, mais c'est un nouveau signal envoyé par l'Union européenne pour dire qu'on ne rigole pas avec le RGPD et les données personnelles. Si vous attendiez avec impatience une mise à jour de l'application Twitter pour le Mac, on n'a pas de très bonnes nouvelles pour vous. L'ancienne direction du réseau social se fichait déjà pas mal du logiciel, alors vous pensez bien qu'avec le nouveau patron Elon Musk, les choses ne vont probablement pas changer. C'est même possible que l'app macOS finisse par être purement et simplement enterrée. Il ne restera alors plus que la version web de Twitter, vu que le même Elon Musk a flingué les applications tierces sans fleur ni couronne. C'est peut-être l'occasion de tester, voire d'adopter un nouveau réseau social. On est sur Mastodon à l'adresse social.macg.co/@macgeneration. Je dis ça, je dis rien. Le chiffre du jour, c'est 4, comme 4%, soit le nombre d'entre vous qui êtes des xénomorphes. Et comme tout bon xénomorphe, vous avez fait fondre votre souris Magic Mouse. Blague à part, dans notre dernier sondage, on vous demandait ce que devenaient les bords de votre souris. On s'est en effet rendu compte qu'au fil des années, le revêtement du mulot se dégradait. En fait, c'est l'aluminium de la coque qui se détériore. Ça ne pose pas de problème de sécurité ou de fonctionnement, c'est simplement que l'esthétique en prend un coup. Apple indique que cette dégradation peut arriver chez un petit nombre d'utilisateurs en raison de l'acidité de leur peau. Ça se retrouve dans les résultats du sondage, puisque vous êtes 54% à nous dire que vous n'avez jamais rencontré ce problème, contre 15% qui ont constaté une dégradation visible. Notre sondage est toujours en ligne, alors allez voter dans un cas comme dans l'autre, et même si vous êtes un xénomorphe. Avec ses Apple Store, le constructeur a transformé le secteur du commerce de détail en profondeur. Et puisqu'on fête en ce moment les 22 ans des boutiques Apple, ça valait bien qu'on revienne avec Anthony sur cette aventure assez exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie de notre chronique sur les Apple Store. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Les Apple Store ont joué un rôle singulier pendant la pandémie pour Apple. Déjà, y en a pas mal qui ont dû fermer pendant les confinements. Et puis, ça a été l'occasion pour Apple de muscler ses systèmes de réservation et de prise de commande.
Apple a beaucoup innové pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait plus aller chez elle, puisqu'on ne dit plus Apple Store, on dit chez Apple. Et les boutiques sont redevenues des boutiques. C'était particulièrement marquant à Opéra. La boutique à Opéra elle a été construite dans les anciens locaux de la Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud, figurez-vous.
Oh.
Et c'est presque redevenu une banque. Il y avait des guichets Apple Express, ouais. Où on pouvait venir retirer ses produits comme si tu venais retirer tes espèces. Mmh. Les photos sont sur MacG, c'est assez amusant. Là encore, faut saluer le travail d'Angela Ahrendts qui a complètement fusionné les Apple Store physiques et l'Apple Store en ligne, qui jusque-là était très séparé.
Ouais.
Les lancements de produits sont beaucoup moins impressionnants qu'à une époque, puisqu'il n'y a plus de file d'attente.
Ouais.
Mais en même temps, il est beaucoup plus facile de réserver en ligne et d'aller chercher la boutique du coin. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place avant la pandémie, qui les a bien servis pendant la pandémie, puisque finalement, Apple a été une pionnière du click and collect dans ce sens. Donc, elle était complètement prête à faire bouger ses boutiques pendant la pandémie.
On peut dire un mot des patrons des Apple Store. Il y a deux noms qui sortent du lot. C'est ceux de Ron Johnson, qui a, on peut dire, co-créé les boutiques avec Steve Jobs. Et puis, évidemment, Angela Ahrendts, qui vient de Burberry et qui a donné cette patine grand luxe aux Apple Store.
Il faudrait aussi mentionner le pauvre John Browett,
oui.
qui venait de la chaîne de magasins informatiques Dixons, et qui a tenu 6 mois en faisant bourde sur bourde sur bourde. Les papiers s'écrivaient tout seuls, c'est une époque qui me manque beaucoup. C'est dingue comme c'était une terrible erreur de casting. Le pauvre. Sans vouloir diminuer la portée du travail d'Angela Ahrendts, qui a été traitée de manière assez injuste, je trouve, elle a vraiment parachevé la vision originale des Apple Store.
Ouais.
Jobs et Johnson, ils voulaient vraiment que les gens puissent entrer juste pour voir, sans forcément qu'un vendeur leur tombe sur le dos. D'ailleurs, les vendeurs chez Apple sont pas payés à la commission. C'est vraiment important. Et c'est intéressant qu'un type comme Browett, qui venait de la vente d'ordinateurs, n'ait pas réussi à s'imposer, mais que Johnson et Ahrendts, qui venaient du monde de l'habillement, alors moins luxueux pour Johnson, plus luxueux pour Ahrendts, aient à ce point réussi à concevoir des boutiques dans lesquelles on a envie d'aller. Mais parce que quelque part, c'est un peu comme quand on va chez Burberry. Burberry vend rien. Enfin, évidemment, ils vendent des imperméables, mais Burberry vend d'abord une marque. Ouais. Apple, c'est pareil. Elle vend d'abord une marque. Tu vas pour voir, tu te balades chez Apple. Et puis si t'achètes, tant mieux.
Apple a installé ses stores un peu partout dans le monde, y compris en France, donc depuis 2009. Depuis, ce sont 20 boutiques qui sont présentes par chez nous. Plusieurs sont emblématiques, comme celle du marché Saint-Germain ou encore celle des Champs-Élysées. Tu étais allé à l'inauguration de la boutique du Louvre, d'ailleurs.
Merci, comme toujours, de me mettre un petit coup de vieux. J'ai assisté à la naissance de cette boutique lors d'une visite presse avec Ron Johnson en personne, d'ailleurs. J'ai chroniqué tous ces tumultes. C'était les premiers mouvements de grève auxquels Apple a été confronté.
Ouais.
Surtout, il y avait en France. Il y avait surtout d'énormes problèmes de conception de cette boutique, notamment la clim. Je me souviens d'un incendie dans cette boutique qui mettait vraiment en danger la santé de ses employés. Puis finalement, on a vécu sa mort en même temps que l'ouverture de la boutique des Champs-Élysées. Au départ, Apple voulait ouvrir 25 boutiques en France. On est finalement à 20. Il manque une boutique à Lyon, où il aurait dû avoir 3 boutiques. Il manque une boutique à Bordeaux.
Ouais.
Apple a jamais réussi à avoir l'emplacement qu'elle convoitait à Toulouse.
Ouais.
Donc les pauvres Toulousains n'ont toujours pas de boutique Apple.
Ouais.
Et la région PACA, qui a longtemps été la deuxième région pour Apple en France, est assez mal desservie. Mais enfin, la priorité aujourd'hui, c'est pas d'ouvrir en France, c'est d'ouvrir en Asie et particulièrement en Chine. On commence, cela dit, à voir les premières restaurations, puisque nos boutiques commencent à avoir quelques années. On en a une à Confluence, on en a une en ce moment aux Quatre Temps, et donc on voit les concepts récents qui sont justement déployés en Asie arriver dans ces vieilles boutiques de centres commerciaux qui sont des boutiques assez assez conventionnelles. Donc on commence à voir justement le Genius Grove, les avenues, beaucoup plus de bois à la place du métal, ça commence à percoler.
Les Apple Store sont devenus des symboles de la réussite d'Apple et un élément extrêmement important dans la stratégie de reconquête d'Apple auprès du grand public. On y va pour découvrir le nouvel iPhone, les derniers Mac, pour acheter des AirPods ou pour changer la batterie de son iPad. C'est même devenu des sortes de temples de la consommation et même des chefs-d'œuvre d'architecture. En fait, ça aide même Apple à maintenir une image premium avec les prix qui vont avec.
Lors de cette fameuse ouverture de l'Apple Store du Louvre, Pascal Cani, qui dirigeait Apple France à l'époque, disait que la France était la fille aînée de l'église Apple. J'avais filé la métaphore dans mon papier, j'étais allé un peu fort avec les photos architecturales, mais enfin en même temps, c'est effectivement le temps de la consommation. Les boutiques récentes sont monumentales, elles sont souvent conçues par l'agence d'architecture Foster plus Partners, qui a aussi fait l'Apple Park, mais enfin aussi quelques-uns des monuments les plus connus de la planète. Le cube de la 5e avenue, la sphère à Singapour, à Marina Bay Sands. Les boutiques qui ont été insérées effectivement dans le marché Saint-Germain à Paris ou même Piazza Liberty à Milan, la boutique qui est presque invisible, Michigan Avenue à Chicago, où on ne voit pas où est la boutique. C'est quand même des merveilles d'architecture, il faut bien le dire. Ouais. Et à l'intérieur, les produits sont mis en scène. C'est un théâtre, c'est du cinéma, une boutique Apple. Ouais. Le style de vie Apple est mis en scène. On peut être blasé, tu sais que je le suis, mais enfin quand même, ça on jette.
Les Apple Store, c'est aussi et surtout un support essentiel pour le lancement des nouveautés. Je pense en particulier à l'Apple Watch, où on peut tester les différents modèles et les bracelets sans la pression de l'achat. Et demain, ce sera sûrement le tour du casque de réalité mixte.
Je suis assez persuadé que l'Apple Watch, au moins au début, aurait eu beaucoup plus de mal à convaincre sans les boutiques. Ouais. Et d'ailleurs, on se souvient qu'Apple avait ouvert des coins Apple Watch dans beaucoup de galeries commerciales, y compris un peu luxueuses, notamment au grand magasin à Paris. Ouais. Pouvoir essayer le produit, choisir la taille, voir les bracelets sans forcément justement être poussé à l'achat, c'est quand même pas négligeable pour l'informatique vestimentaire. Ouais. Ça montre aussi l'importance de la relation physique dans le numérique. C'est pas juste du dématérialisé.
Tout à fait.
Alors, dans un tout autre genre, même Tesla, pour les citer, a bien vu qu'il leur fallait avoir quelques boutiques.
Ouais.
Ce sont des gens qui expliquaient qu'ils voulaient pas du tout de concessions automobiles, et finalement ces gens ont ouvert des concessions automobiles.
Ouais.
À la fin, s'asseoir dans une voiture, la voir en vrai, pouvoir l'essayer, pouvoir faire le parcours d'achat avec quelqu'un qui clique à ta place dans une page web, c'est quand même pas tout à fait inutile.
Ouais.
Et quand on parle d'un casque à plusieurs milliers d'euros qu'il va falloir porter sur soi, potentiellement par-dessus des lunettes, parce que tout le monde n'a pas des yeux à 20-20, donc il va falloir voir les ajustements, est-ce que ça me va, est-ce que c'est confortable, et ben vous savez quoi, ce ne sera pas tout à fait inutile d'avoir des boutiques. Et les boutiques vont avoir leur rôle à jouer. On avait vu avec les Apple Watch, ils avaient changé le mobilier, il y a des tables spécifiques pour l'Apple Watch, il y a un coin spécifique pour HomeKit, un coin spécifique pour l'Apple TV, je suis certain qu'on aura un coin spécifique pour ce casque avec de la place pour probablement bouger, pouvoir porter ce produit dans un espace safe, pas jeter comme ça de l'argent sans savoir dans quoi on se jette. Ça va être super important et les boutiques Apple, pour ça, vont être super importantes.
Eh bien, merci pour ce point complet sur les Apple Store. Je vous rappelle qu'on a posté la première partie hier dans Sortie de Veille. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.